Voilà, donc avant-dernier mot de l'année, dans les 10 mots, donc le 9e, associatif. Voilà, c'est pas très sexy, j'en suis désolé, on va essayer d'agrémenter un peu le...
Ça intéresse vraiment beaucoup de gens.
Voilà, boutade française, voilà, ça intéresse beaucoup de gens, c'est pas très sexy, mais en fait ça intéresse beaucoup de gens, je vais commencer par là, c'est une boutade courante, il paraît que tout Français est, a été ou sera président d'une association, quelle qu'elle soit, et effectivement, quand on voit le nombre, c'est courant, une boutade, et effectivement quand on voit le nombre d'associations, je suis par curiosité allé regarder cela, il y a plus d'un million d'associations en France, je ne sais pas d'ailleurs si ce sont simplement les associations actives qui sont censées rendre des comptes chaque année, donc la préfecture, c'est-à-dire au moins envoyer un rapport d'activité, la liste du conseil d'administration, etc. etc. Parce que, par ailleurs, les associations en déshérence qui n'ont jamais été liquidées formellement, eh bien, constituent sans doute des strates, depuis la promulgation de la loi 1901, des strates dont l'administration, sans doute, ne cherche pas, en quelque sorte, à régler, à clarifier, puisque c'est sans doute insondable. 1 million, donc, d'associations, 13 millions de membres. C'est considérable, hein. Et donc, en l'occurrence, un nombre au-delà même, je dirais, de ces membres, etc., eh bien, une part importante dans l'économie, puisque les associations représentent 10% des salariés en France, hein, l'ensemble du secteur associatif, ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Alors, en l'occurrence, quand on regarde le contenu ou les objets des associations, extrêmement variables, en l'occurrence, certains étant franchement risibles, puisqu'on ne compte pas les associations de buveurs de bière, différentes et variées, les associations de pêcheurs à la ligne ou de toutes sortes de pêches, les associations de joueurs de boules, et à Lyon, évidemment, de la boule lyonnaise, etc. Et au-delà de ces objets qui, pour certains d'entre eux, peuvent prêter à sourire, eh bien, on peut mesurer, à travers en particulier justement le pourcentage de salariés que représente le secteur associatif dans l'économie française, eh bien, on peut mesurer aussi l'importance de ce secteur dans la vitalité sociale et économique, puisque le système associatif, eh bien, gère en grande partie ou en bonne partie, pas en grande partie, je me trompe, mais en bonne partie le monde éducatif, en bonne partie aussi le monde de la santé. Il y a bon nombre d'établissements éducatifs ou d'établissements de la santé, eh bien, sont gérés par des associations à but non lucratif. La quasi-intégralité, je dirais, du monde culturel, du monde du spectacle, etc. Autrement dit, eh bien, c'est l'ensemble du secteur non marchand, par rapport au secteur marchand, l'ensemble du secteur non marchand qui appartient justement donc au monde associatif. Le secteur marchand étant géré pour l'essentiel par des structures commerciales, des sociétés commerciales, pas exclusivement d'ailleurs, puisque justement la vitalité du monde associatif se fait ressentir jusque dans le secteur concurrentiel. Certaines activités ayant évolué, ne serait-ce que par, comment pourrais-je dire, analyse des services fiscaux, du secteur non marchand vers le secteur marchand, du secteur non concurrentiel vers le secteur concurrentiel. Le monde, par exemple, de la formation, qui s'est beaucoup développé au-delà de ce qu'on appelle la formation initiale, hein, c'est-à-dire primaire, collège, lycée, etc., et enseignement supérieur, s'étant beaucoup développé dans la formation continue, et puis après cela, le conseil, etc., eh bien, a développé des activités qui sont considérées en général par les services fiscaux comme des activités marchandes, parce qu'elles sont concurrentielles, parce qu'elles font l'objet de facturations confortables, parce qu'elles dégagent des chiffres d'affaires importants, etc. Et donc ces activités qui, il y a encore quelques décennies, échappaient, je dirais, à la fiscalité, etc., eh bien, ont été requalifiées. Et donc les services fiscaux donc enquêtent évidemment de nouvelles ressources, et sans doute sous la houlette d'un budget, d'un ministère du budget et des finances, donc qui n'a de cesse que de lever de nouvelles recettes, etc., eh bien, a requalifié un certain nombre de secteurs gérés par le système associatif, et donc a considéré qu'il appartenait au secteur marchand, ce qui permet de faire rentrer donc de nouveaux impôts. Donc, au fond, eh bien, le secteur associatif recouvre un nombre d'activités considérables, a une part considérable dans la vie sociale et économique, en particulier en France. Et de ce point de vue-là, eh bien, cette vieille loi de 1901, considérée comme libérale, d'ailleurs, lors de sa promulgation, on peut dire a vraiment tenu ses promesses, parce qu'il y a eu très peu, je dirais, d'évolution de la loi. Au fond, l'évolution est surtout venue du côté de la réglementation, en particulier sur le plan fiscal, mais la loi, dans sa simplicité d'origine, et dans ses grandes lignes d'origine, est restée, et donc permet chaque année, alors tiens, ça je ne suis pas allé vérifier, ça serait intéressant de voir le nombre d'associations créées chaque année, je crois qu'il faudrait dire d'ailleurs par jour, parce que c'est certainement chaque jour qu'il y a, je dirais, de nombreuses créations donc d'associations. Voilà. Alors, je parlais du contenu, des objets, et on pourra y revenir si cela vous intéresse, je ne m'y arrêterai pas trop. On va plutôt parler de la forme associative, parce que au-delà, je dirais justement, des objets, de l'objet qui est extrêmement variable et qui, pour certains d'entre eux, sont décisifs pour la vie économique et sociale, et d'autres relèvent de la dimension tout à fait ludique, de loisirs, des hobbies ou de tout ce qu'on veut, etc. Eh bien, la forme, par contre, associative, force le respect. Qui, et ça a été mon cas par exemple, n'a pas été impressionné lors d'assemblées générales, de petites associations parfois, par exemple de restaurants scolaires, d'activités sportives, d'activités culturelles ou autres, et bien du sérieux, de la rigueur, de la précision avec laquelle et bien la gestion de l'association est assurée. Les statuts sont respectés, l'ensemble des procédures prévues au statut conformément à la loi 1901, l'ensemble des procédures sont respectées, de vote, d'élection du conseil d'administration, de désignation du bureau, le rendu des comptes, le rapport, le fameux rapport moral, et on pourrait presque parler du sacré rapport moral, qui fait l'objet d'un compte rendu chaque année en assemblée générale, etc. Et donc, par ailleurs aussi, qui n'a pas été étonné des réactions parfois très épidermiques lorsque, justement, un président ou que sais-je, un administrateur un peu indélicat, on ne va pas parler de piquer dans la caisse, parce qu'à ce moment-là, c'est une véritable catastrophe, comme effectivement on a connu, je dirais, dans l'histoire encore de ces dernières années, des affaires retentissantes, comme la fameuse association de recherche sur le cancer, là. L'arc, une histoire retentissante, et ça n'est pas la seule. Mais à chaque fois, c'est une affaire en quelque sorte catastrophique, parce que justement, cela vient remettre en cause quelque chose qui est, je dirais, une probité, une honnêteté, une authenticité qui est liée justement à cette vie associative et qui, dans la, je pense, dans la majorité des associations, est vécue de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose de très pur qui se vit dans les associations, et à nouveau, eh bien, on est frappé par la façon dont des gens qui, parfois, dans la vie professionnelle, eh bien, ont très peu de responsabilités, voire pas de responsabilités du tout, ont des métiers d'exécution, eh bien, vont par ailleurs, dans la vie associative, remplir des fonctions avec beaucoup de sérieux, beaucoup de précision, beaucoup d'honnêteté, rendre des comptes, être exact, être le plus honnête possible, etc. Et donc, il y a là, comme une leçon, que quelques affaires malheureuses, par exemple comme celle de l'Arc, etc., eh bien, vient non pas contredire, mais vient en quelque sorte, par contraste, eh bien, rappeler que le monde associatif, c'est un monde sérieux, honnête, authentique, etc. Voilà. Et alors, c'est cette forme qui peut nous intéresser, puisque elle existe depuis 1901, elle s'est répandue de façon absolument considérable, et en l'occurrence, bien qu'arrivant tardivement, on pourrait dire, dans le monde moderne, mais pas tant que cela finalement, pas tant que cela, dans l'histoire de la démocratie, eh bien, il y a au cœur justement de la vie associative la dimension démocratique. Il y a un parallèle dans la forme justement associative, dans la vie associative avec la démocratie, au point que l'on peut se demander si de ce point de vue-là, eh bien, l'association n'est pas un modèle démocratique et peut-être un modèle démocratique parfait, si donc il n'est pas, si vous voulez, comme un microcosme démocratique. Là où la démocratie pourrait vraiment fonctionner, serait vraiment réussie parce que, justement, elle pourrait exister en taille réduite, et donc elle, de ce point de vue-là, en quelque sorte, elle ne subirait pas les lourdeurs, le caractère impondérable, les circonstances difficiles liées à la vie d'une nation, inscrite dans une histoire, avec ses rebondissements, les événements, etc., etc., et qui fait qu'une démocratie nationale eh bien, avance cas à cas dans l'histoire de l'humanité. Et quand on prend par exemple l'histoire de la démocratie française, eh bien, il a fallu, je dirais, un nombre de décennies, un nombre d'empires, un nombre de restaurations incroyables, je dirais, pour qu'elle finisse par s'installer à peu près dans la durée avec la Troisième République. Eh bien, de ce point de vue-là, alors que la démocratie, à la taille, à l'échelle de la nation, a mis longtemps à s'implanter, à s'instaurer, eh bien, au fond, l'association apparaît comme un modèle réduit de la vie démocratique, de la démarche démocratique, et de ce point de vue-là, moins, comme je le disais, victime de circonstances extérieures, d'impondérables, d'événements, et de ce point de vue-là, un modèle plus pur et mieux réussi de la démocratie. Et au fond, eh bien, peut-être que étudier justement ce qu'est l'association, ce qu'est la vie associative, ce qu'est le secteur associatif, le monde associatif, on parle du monde associatif de ce point de vue-là, c'est peut-être étudier la genèse de la démocratie, une démocratie dans un état pur, en un certain sens, une pureté de la démocratie non atteinte à nouveau par justement des événements, des circonstances extérieures, des impondérables, etc., etc. Et donc, de ce point de vue-là, eh bien, l'association, le monde associatif et les associations qui, d'un côté, peuvent nous sembler un peu dérisoires par leurs objets, etc., eh bien, ont peut-être beaucoup à nous apprendre sur, au fond, je dirais, la destinée démocratique dans ses origines, dans ses fondements, dans son développement, dans ses dimensions positives et puis peut-être aussi dans ses dimensions négatives si, en l'occurrence, on en trouve, je dirais, du côté justement du monde associatif. Et donc, ce que je voudrais vous proposer ce soir, eh bien, c'est un parallèle, en quelque sorte, entre le monde associatif et la démocratie, le monde associatif ou l'associatif comme miroir de la démocratie, et si je le fais, c'est que, évidemment, ça a été fait avant moi, par l'un des, je dirais, des plus grands penseurs de la démocratie, c'est en l'occurrence Tocqueville, dont on reparlera abondamment dans un moment. J'ai apporté donc de la démocratie en Amérique. Il y a un chapitre entier consacré justement à l'association, aux associations aux États-Unis. Et alors Tocqueville dit, au fond, les associations, c'est le ferment de la démocratie. Sans association, il ne pourrait pas y avoir de démocratie. Alors, c'est très, très, très intéressant, puisque dès l'origine, ce qui pratiquer. Et Tocqueville, c'est un esprit prodigieux parce qu'il pense la démocratie à ses prémices. Et quand on lit la démocratie en Amérique, quand on lit aussi les analyses qui ont pu être faites de cet ouvrage par des gens comme Manant en France, etc., et on s'aperçoit qu'il y a, je dirais, une dimension visionnaire de Tocqueville. C'est-à-dire que Tocqueville, non seulement a une lecture très riche de la genèse démocratique, bien au-delà, on va dire, du mythe révolutionnaire, etc., qui réduit tout, par exemple, à la Révolution française, etc. Donc Tocqueville inscrit le devenir de la genèse démocratique dans l'histoire et voit, le devenir démocratique à travers l'histoire. Et puis par ailleurs, à la fin du XVIIIe siècle, il est capable par ailleurs de prévoir, le mot serait grand, mais il montre les grandes orientations et les grandes limites, justement, de la démocratie. Et donc il y a dans les analyses de Tocqueville des préfigurations de ce que nous vivons aujourd'hui sur la question de l'opinion, sur la question de l'information, sur la question de l'État, de la place de l'État, du développement de l'État, de l'État-providence, etc. Quand par exemple Tocqueville dit la démocratie c'est obligatoirement le développement de l'État, il fallait être capable de le dire et de le comprendre à la fin du XVIIIe. C'est pas du tout évident à la fin du XVIIIe de pouvoir dire cela. Or précisément c'est bien ce que le développement, l'histoire des démocraties occidentales modernes, ont montré. Alors, Tocqueville place justement l'association au cœur même de la démocratie, et il, de ce point de vue-là, lui-même éclaire la démocratie par l'association, et assure ce jeu de miroir que je vous propose ce soir. Alors, je vous le propose en trois étapes. La première étape,